Le journal, Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous. Les canicules coûtent cher à la planète, mais aussi à notre système de santé. Entre 22 et 37 milliards d'euros, rien que sur ces 6 dernières années. Résultat, une enquête dévoilée ce matin par Santé publique France. Les détails dès le début de ce journal. L'extension du pass sanitaire ne se fera pas avant le 5 août. Le Conseil constitutionnel doit rendre son avis. Ce qui ne bougera pas, c'est l'application du pass sanitaire au resto, de quoi inquiéter sur la côte bretonne. Dans ce journal, encore attention au miel censé pimenter la vie sexuelle. Plusieurs produits supposément aphrodisiaques peuvent être dangereux pour la santé. Et puis le fléau de la drogue en Iran porté à l'écran, la loi de Téhéran au cinéma mercredi.
Invité de la matinale à 7h50, Grégory Allione. Il est le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Des pompiers désormais soumis comme les soignants à l'obligation vaccinale, mais ils sont surtout ces pompiers sur tous les fronts cet été. Nous verrons comment l'urgence climatique a changé leur mission et leur métier.
France Inter.
Plus 4 degrés en moyenne d'ici à la fin du siècle.
C'est la hausse des températures possible en France métropolitaine si rien n'est fait pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la dernière projection de Météo France, dévoilée il y a quelques semaines, une énième alerte sur le réchauffement de notre planète, alors même que les experts du GIEC travaillent en ce moment sur un nouveau rapport à 100 jours de la prochaine conférence internationale sur le climat. Ce matin, Santé publique France prend le problème sous un autre angle, en chiffrant le coût des épisodes de canicule en France pour notre système de santé. Résultat, entre 22 et 37 milliards d'euros, rien que sur les 6 dernières années. L'Aurélie qui arrive.
Ces 6 dernières années, seuls le Finistère, les Côtes d'Armor et la Creuse ont échappé aux vagues de chaleur. Sur les 93 autres départements de métropole, les chercheurs ont compté 2716 journées d'alerte canicule. Pour en évaluer le coût sanitaire, ils ont donc additionné les consultations SOS médecins, les passages aux urgences, les hospitalisations, les arrêts de travail. Ils ont aussi donné une valeur à l'excès de mortalité, c'est un peu technique, mais ils ont utilisé des indicateurs mis au point par les économistes dans le domaine des politiques publiques. Résultat des calculs.
Au total, entre 2015 et 2020, on aboutit à 814 euros par habitant en moyenne.
Mathilde Pascal, chercheuse à Santé publique France.
Avec des valeurs qui vont varier d'un département à l'autre. La plus faible dans notre étude, c'est la Lozère, 18 euros par an, puisqu'il y a eu assez peu d'événements en Lozère. Et à l'inverse, la plus élevée, c'est dans le territoire de Belfort, où on arrive à 400 euros par an.
Pour le seul recours aux soins, le montant total est estimé à 30 millions d'euros. Une étude qui souligne une fois de plus l'urgence à prendre des mesures face à des événements climatiques qui vont se multiplier. Mesures de prévention, mais aussi pour adapter les villes et les logements, soulignent les auteurs du rapport.
Le reportage de l'Aurélie qui arrive.
Le pass sanitaire ne sera finalement pas élargi avant le 5 août.
Date à laquelle le Conseil constitutionnel doit rendre son avis sur la loi votée dimanche. Les sages saisis directement par le gouvernement pour s'assurer que le texte est en tout point conforme à la Constitution. Parmi les points qui pourraient être retoqués, la suspension du contrat de travail pour les salariés des établissements recevant du public qui ne voudraient pas présenter ce pass. Ce qui est sûr, c'est que le pass sanitaire sera demandé début août dans les trains, les avions, les foires, les salons et dans les bars et les restaurants dont les patrons continuent de faire grise mine. Reportage à Vannes en Bretagne, signé Maureen Suignard.
Jusqu'au bout, Marie-Odile Briand espérait, mais la gérante du restaurant L'Escale sur le port de Vannes devra bien appliquer le pass sanitaire sur sa terrasse.
C'est du stress et une déception. Je ne vois pas la logique en tout cas de cette mesure, malheureusement.
Même déception, même lassitude pour Guillaume Bernard du Daily Gourmand.
Notre profession est un petit peu poutrée du doit depuis le début de la pandémie. Ça continue quoi.
Il devra, comme les autres, contrôler le pass sanitaire de ses clients, mais la sanction est revue à la baisse. Le texte du gouvernement prévoyait une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros. Ce sera finalement une sanction administrative, 7 jours de fermeture maximum.
Ça revient à la même chose. En 7 jours, chiffre d'affaires, si on travaille normalement, on n'est pas loin du même montant que l'amende. Donc, je ne sais pas si les services de l'État seront aussi compréhensifs s'il y a des ratés de notre part. Je verrai comment ça va se passer.
Côté salarié, plus de licenciement, mais une suspension du contrat de travail et du salaire si ce dernier n'est pas vacciné au 30 août. Cela reste une difficulté supplémentaire pour Steve Texera, directeur adjoint du restaurant L'Atlantique.
Je sais que tout le monde ne sera pas vacciné d'ici le 30 août.
Vous voyez suspendre quelqu'un
non.
Pour ça?
Déjà qu'on a du mal à recruter en restauration. Donc si en plus les gens qui savent bien travailler ont obligé de les suspendre parce qu'ils ne sont pas conformes à la loi, ça va commencer à être compliqué.
Tous ces professionnels craignent aussi une baisse de la fréquentation de leur établissement, mais préfèrent appliquer le pass sanitaire plutôt que de fermer une nouvelle fois.
Reportage à Vannes de Maureen Suignard, France Bleu Armorique. Le pass sanitaire exigé donc bientôt quasiment partout. Et il faudra parfois même justifier son identité en cas de contrôle des forces de l'ordre. Ce qui pourrait compliquer la vie de certaines personnes transgenres. Car c'est parfois leur nom de naissance qui figure sur le pass sanitaire. Certains craignent donc un risque de discrimination. Alice Cachaner.
Calista est une femme trans. Elle a changé d'état civil en début d'année. Et pourtant, sur son pass sanitaire, c'est toujours son nom de naissance. Un nom masculin qui apparaît et qui ne correspond plus en rien à son identité actuelle.
C'est l'ancien prénom qui continue d'apparaître malgré les multiples manipulations du centre de vaccination ou aux médecins traitants qui ont essayé tout ce qu'ils pouvaient.
Après un mois de tractation, d'appel à l'assurance maladie, rien n'a changé. Une situation qui pourrait vite devenir embarrassante, s'inquiète Calista.
Le pire, ça serait un policier qui fasse une vérification et qui considère que c'est une usurpation d'identité.
Il faudra aussi montrer ce passe à des cafetiers, restaurateurs, contrôleurs de train et sans cesse se justifier.
Se faire un coming out mais permanent, tout le temps, à chaque fois qu'on veut faire une activité, c'est très stressant. C'est le genre de choses où on veut rester la plus discrète possible, quoi, pour éviter de se faire au minimum insulter, puis au pire agresser. Quoi.
La situation de cette femme trans n'est pas un cas isolé. L'association AcceptST reçoit de nombreux appels au sujet du pass sanitaire. S'insurge sa présidente, Giovanna Rincon.
Pour nous, c'est une mise en danger des personnes. Cette situation traduit à quel point le traitement informatique sur le changement de prénom dont les logiciels n'est pas considéré comme quelque chose d'important pour la vie des personnes trans.
L'association redoute également un isolement des personnes transgenres face à ces difficultés administratives. Un
témoignage recueilli par Alice Cachaner, à lire également sur franceinter.fr.
France Inter, 7h37, la suite du journal. Kevin Dufraîche.
Peut-être certains d'entre vous qui nous écoutez ce matin êtes en plein dans vos cartons de déménagement, car oui, c'est une des conséquences inattendues de la crise sanitaire avec l'envie d'ailleurs de beaucoup de Français ces derniers mois. L'activité des déménageurs a augmenté de 30% cet été par rapport à la normale. Résultat, Rémi Brancato, ils ont bien du mal à faire face.
Dans les locaux des déménagements Lefebvre à Pantin, près de Paris, le téléphone n'arrête pas de sonner.
Tu m'as mis 40 cartons standards et 20 cartons livres.
5 à 6 déménagements par jour en ce moment.
Plus tard, Marie.
Pour Sonia, qui coordonne les plannings, c'est du jamais vu.
Ça n'arrête pas toute la journée. On travaille beaucoup. Nous, on est ravis. Hein. Cet été, c'est complet, surtout vers la province.
Car ici, en Île-de-France, un client sur trois choisit de quitter la région. Clairement, un effet des restrictions sanitaires.
Ils ont très, très, très mal vécu le confinement. Donc, ils partent. Ils préfèrent plus grand et c'est des gros déménagements. Beaucoup Bordeaux, beaucoup la Bretagne, Marseille.
Certains choisissent de télétravailler plus loin. C'est ce que constate Olivier Vermorel, patron de deux entreprises de déménagement dans le Val-de-Marne et membre de la chambre syndicale du déménagement.
On a beaucoup de déménagements vers Reims, Orléans, Tours. On prend le train et puis on va travailler à Paris, quoi.
Et résultat, l'activité augmente de 60% contre 20 à 30 selon lui pour un été normal. Pour les clients qui ont réservé trop tard, difficile de trouver un déménageur. Il y a 2 à 3 mois d'attente.
On refuse maintenant. Je ne peux plus prendre de visite client. Nous sommes complets jusqu'au 3 septembre.
Il assure ne pas pouvoir augmenter l'activité.
Trouver 3, 4, 5, 6 déménageurs avec toutes les compétences, c'est impossible.
Selon lui, le secteur fait face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.
Rémi Brancato, la confusion toujours en Tunisie. 2 jours après le coup de force du président Saïed qui s'oppose au premier parti du pays, les islamistes d'Ennahda, la France appelle ce matin au retour, je cite, d'un fonctionnement normal des institutions. Nous serons en Tunisie dans le journal de 8h.
On en consomme chaque année 45 000 tonnes en France.
Le miel fait partie des habitudes alimentaires de beaucoup de Français. Et ce matin, je vous parle d'un miel un peu particulier, de plus en plus prisé. Le miel aphrodisiaque, ou en tout cas censé l'être, parce que l'Agence de sécurité du médicament et la répression des fraudes alerte ce matin. Ces miels vendus sur Internet sont illégaux, ils ne sont pas aussi naturels que ce que prétendent les vendeurs et surtout certains peuvent être dangereux pour la santé, Solène Lehen.
Messieurs, retrouvez le désir, l'énergie sexuelle, la libido. Traitez vos problèmes d'érection, d'impuissance sexuelle, de stérilité et d'éjaculation précoce. Rien que ça promet le miel Black Horse. Même promesse avec le Jaguar Power que l'on trouve aisément en vente sur Internet. Un simple miel des montagnes de Malaisie, expliquent les sites Internet, que du naturel. Or, après analyse, ces miels supposément aphrodisiaques contiennent aussi des substances actives médicamenteuses. Et ça, l'étiquette et les sites internet de vente ne le disent pas. Des substances telles que du sildénafil et du tadalafil, c'est-à-dire des composants du Viagra. Rien de vraiment naturel, en fait, de puissants vasodilatateurs, contre-indiqués notamment chez les personnes cardiaques. Plutôt que de redonner de la vigueur, ces miels ont carrément provoqué des convulsions chez certains consommateurs, des hémorragies d'origine pulmonaire, des œdèmes cérébraux et des insuffisances rénales aiguës, des effets que l'on qualifiera plutôt d'affreux, disiaques.
Les précisions de Solène Lehen. Les JO de Tokyo et Clarissa Gbeniénou sur la route de l'or. La judokate française s'est qualifiée ce matin pour les demi-finales. Rendez-vous aux alentours de 10h. À suivre aussi du côté des chances de médailles françaises. Ce matin, Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte en VTT. Et puis ce matin, surprise et grosse déception pour les Japonais avec la star du tennis nippon Naomi Osaka éliminée dès les huitièmes de finale. Enfin, le conseil ciné du jour nous vient d'Iran. La loi de Téhéran de Saïd Roustaï sort demain en France. Un long métrage consacré aux problèmes de drogue que connaît le pays et dont on ne parle que très peu, qui sont pourtant en Iran un véritable fléau. Cyril Ardo.
Dans sa version originale, le film s'appelle 6,5, comme les 6,5 millions de personnes accro à la drogue en Iran, près de 8% de la population. Le long métrage nous montre cet enfer avec l'arrestation de centaines de consommateurs dans un bidonville qui permet peu à peu de remonter jusqu'à la tête du réseau, Nasser Razdak, le Pablo Escobar local. On est ensuite plongé dans les geôles iraniennes, insalubres et surpeuplées, puis immergé dans l'enquête, les arrestations, les interrogatoires musclés. Il y a aussi les méthodes expéditives du principal enquêteur, Samad, un homme de valeur qui rêve de justice, mais nous laisse pourtant croire qu'il pourrait basculer et se laisser corrompre à chaque instant. La loi de Téhéran, c'est un film au rythme soutenu qui questionne l'efficacité du système judiciaire iranien, où quelques grammes seulement de drogue peuvent vous envoyer à l'échafaud. Conversation entre deux policiers. À mon début, il y avait 1 million de drogués, maintenant il y en a 6 fois plus. Et pourtant, combien de narcotrafiquants avons-nous fait exécuter ? Sans ça, il y en aurait 20 millions, lui répond l'autre. Réponse ironique du premier. Alors, réjouissons-nous. Le film se veut le plus réaliste possible. Le réalisateur a d'ailleurs passé plusieurs jours pour ses recherches à la brigade des stupéfiants, au tribunal et en prison.
La loi de Téhéran s'est recommandée donc par Cyril Ardo et ça sort en salle demain.
Merci Kevin Dufraîche. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
À suivre l'édito Écho.